France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille sur France Musique un artiste populaire sans lequel les années 70 n'auraient pas été les mêmes. Il a conduit la chanson française du côté de chez Swan et a changé pour toujours la sonorité du prénom Vanina. Vous l'avez compris, Dave est mon invité pour la sortie de son nouveau disque « Souviens-toi d'aimer », une occasion d'évoquer sa vie en chanson. Dave à ce micro dans quelques instants. Mais avant de faire un tour du côté de chez Swan, remontons le temps du côté de Notre-Dame.
Dans les entrailles de Paris fleurit une étrange parure qui rit de vergeture, la cité du bon roi Louis. Quand l'ombre complice et cruelle sur la ville jette sa nuit, sort des taudis, courent les ruelles, détruant la confrérie. La charité se peupla, l'existence crasse, déguenillée, dépenaillée, avec son roi de basse extrace, de la cour des miracles est né. Tire-laine et coupe jarret, faux aveugles et mendiants canailles, dans la nuit font maintes ripailles, prenant pavé pour cabaret. La charité, riche bourgeois qui t'attarde, sache qu'à l'entour du parvis, vivait la main qui poignarde pour de ta bourse ôter le fruit. Et tu peux crier à la garde, alerter les soldats du guet, de cette armée vêtue de harde, Satan protège les méfaits. Quasimodo, tes cloches sonnent, quand parfois en haut d'un gibet, quelque gueux expie son forfait, que le ciel lui pardonne. La charité, prince, excuse si je proclame dans la complainte que voici, que près des tours de Notre-Dame, des truands si belles est la vie.
Voilà, on n'a peut-être pas remonté le temps jusqu'au Moyen-Âge, mais au moins jusqu'en 1956 et à la façon dont on voyait le Moyen-Âge alors dans le film de Jean Delannoy, bien sûr, Notre-Dame de Paris. Ici, c'était la voix de Philippe Clay, le chef dans le film de tous les mendiants de la cour des miracles. Et c'est extrait d'un coffret qui vient de paraître chez Frémaux et Associés, les chansons du cinéma français. Je vous reparlerai d'ailleurs en fin d'émission avec Brigitte Bardot de ce très beau coffret sorti qui permet de remonter dans le temps avec les chansons des années 30, des années 40, des années 50 et 60 et les meilleurs films chantants de ce grand cinéma. Et puis je voudrais aussi donner un petit coup de chapeau aujourd'hui à Roger Boutry qui nous a quittés cette semaine. Roger Boutry qui était notamment le compositeur de la marche olympique française pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1968. l'orchestre du Conservatoire de Paris sous la direction du compositeur Roger Boutry dans cette marche des Jeux Olympiques d'hiver avec des sonorités qui pourraient rappeler un peu celles de ses aînés, Roussel, Honegger, Millau et quelques autres. Il faut dire que Roger Boutry, qui avait été l'élève de Lucette Descaves, d'Henri Chaland, de Noël Gallon, de Tony Aubin, était vraiment peut-être le dernier grand musicien d'une certaine lignée de la musique française qu'il a incarné avec beaucoup de talent. Également, on le sait, comme chef des musiques de la garde républicaine depuis 1973. J'avais eu la joie de le recevoir à ce micro voici quelques années. Il nous a quittés donc le 7 septembre dernier à l'âge de 87 ans.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis nous avons donc rendez-vous ce matin, je vous l'ai dit, avec une vedette, une vraie vedette, comme je les aime depuis toujours. Et ces refrains résonnaient déjà sur le petit poste de radio de l'enfant que j'étais. Il était en tête des hit-parades, c'était dans les années 70, depuis il a fait mille choses. Et il nous revient aujourd'hui avec un nouveau disque. J'ai la joie ce matin d'accueillir Monsieur Dave.
Nostalgie sera toujours ce qu'elle est. Je l'ai jolie quand le présent devient laid. Quand l'avenir promet de défigurer les plus beaux rêves à coups de réalité. Il ne s'agit pas de dire qu'avant le monde allait mieux qu'ici et maintenant. Mais entre nous, autant me l'avouer, je ne suis pas très loin de le penser. La nostalgie aura toujours le visage de toutes les filles et des garçons de mon âge. Quand la candeur promettait des lendemains, où le bonheur viendrait nous prendre la main. Mais les rues où l'on a tant flâné ont vendu leur âme et le charme est brisé. Même Paris va céder sans savoir qui il est. Prends par hasard le pont des arts où il faisait si bon s'attarder ou s'asseoir. Où est ce rêve qui enjambait la scène, qui en a changé la mise en scène? On s'y bouscule comme sur un grand boulevard, mais circuler ça n'a plus rien à voir. La nostalgie sera toujours ce qu'elle est. Je l'ai jolie quand le présent devient laid. Quand l'avenir a déjà défiguré les plus beaux rêves à coups de réalité. Loin de moi l'envie de dire qu'avant on vivait mieux qu'ici et maintenant. Mais il n'est pas interdit de rester fidèle à tout ce qu'on a vraiment aimé. La nostalgie c'est un arrêt sur image, c'est ton passé qui te rattrape au passage. Un air d'hier, un anachronique et léger, un leitmotiv qui ne peut pas te lâcher. Il ne s'agit pas de dire qu'avant le monde allait mieux qu'ici et maintenant. Mais la nostalgie restera toujours, toujours ce qu'elle est. Ma nostalgie restera toujours, toujours ce qu'elle est.
Bonjour Dave.
Bonjour.
Voilà une chanson de votre nouvel album, une belle chanson que j'aime. Je ne sais pas si vous assumez votre goût de la nostalgie.
Ah ben oui, parce que je n'ai jamais compris pourquoi en France et pour les Français, la nostalgie a un côté péjoratif.
Absolument.
Ça n'a absolument pas pour moi.
Il ne faut pas être nostalgique, il ne faut pas regarder vers
oui,
le passé.
Mais je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est vrai que dans nostalgie, il y a algie qui veut dire douleur en grec. Oui. Mais évidemment, quand, moi je dis toujours quand je vais dans le village où j'ai grandi, j'ai le deux. Je suis heureux d'y être et il me manque mes parents. Mais c'est inévitable. Mais ce que nous nous faisons aujourd'hui ensemble, dans 15 jours, j'aurai la nostalgie de notre entretien.
Oh, c'est gentil, ça.
N'est-ce pas?
En tout cas, oui, je disais, c'est une des chansons de votre nouvel album. Et c'est une chanson qui a été écrite pour vous par Gilbert Montagnier.
La mélodie, il me l'a donnée à un moment. Je crois que j'étais dans, du côté de CDF, on était invité. Il dit, j'ai une musique pour toi.
Ah oui?
Et donc, quand finalement on commence à être plus précis dans le fait de faire un album, j'ai demandé à Patrick Vazot, mon parolier maison, essaye de faire quelque chose là-dessus. Au début, il a dit non, puis après, il dit j'ai une idée. Et donc, il avait un clin d'œil, évidemment, évidente à Simone Signoret.
Voilà, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Voilà. C'était évidemment le livre de Simone Signoret. Ouais. Montagnier, ça fait partie de votre bande, vos amis proches?
Non, pas spécialement. Mais c'est un, comme disait Brassens en parlant de Sheila, c'est un bon collègue du bureau.
Un bon collègue du bureau,
c'est joli. Brassens a dit ça sur Sheila, c'est très mignon.
C'est très joli, oui. Ouais. Votre disque vient de sortir le vendredi 13 septembre. C'est vous qui avez choisi la date?
Non, pas du tout, mais je ne suis pas contre. On ne peut pas être et croyant et superstitieux, donc je suis un petit peu croyant. Donc, pas superstitieux.
D'accord, bon, c'était pas fait exprès. Mais en tout cas, c'est votre retour après beaucoup d'années sans disque. Hein.
Ah oui, sans disque, en tout cas avec des chansons originales, oui, ça c'est sûr. Et tout simplement parce que je sentais pas le besoin. Il faut faire ça quand on a vraiment un besoin urgent, dirais-je. Et il y a quelques années, deux ans et demi, je disais dans un dîner avec Renaud, qui était absolument pas prévu pour être mon producteur, et lui qui était à cette époque un peu plus frustré encore, parce que maintenant il va vachement bien. Et donc, on parle autour de lui. Il ne parle pas beaucoup. Et quand j'ai dit « Oh, il faut peut-être un de ces jours que j'envisage de faire un album », il a levé la tête, il a dit avec sa voix que je n'essaierai pas d'imiter. « Ah oui, la France n'en peut plus.
»
C'était mignon. Je l'ai pris au mot.
Parce qu'il faut dire, hein, c'est donc Renaud qui produit hein, votre nouvel album « Souviens-toi d'aimer ».
C'est exceptionnel. Voilà. Il n'y a pas d'autres exemples que je connaisse, en tout cas dans le monde occidental, à part Elton John qui a produit une chanteuse qu'on ne connaît pas beaucoup en France, appelée Neil Sedaka, qui était son chanteur préféré quand il était jeune. Mais ce n'est pas le cas de Renaud. J'étais pas son chanteur préféré quand elle était jeune. Et jusqu'à maintenant, tant que je sache, il n'a produit que l'album de Roman. Ouais. Et nous n'avons pas essayé de faire les enfants ensemble, donc c'est pas pareil.
Donc c'est à la fois le retour de Dave et le retour de Renaud à travers Dave.
Et qui lui-même sur un album que j'ai entendu en novembre, qui est absolument extraordinaire.
Extraordinaire. Et puis ouais. Alors du coup, parce que vous aimez bien faire des disques, mais je crois que vous aimez encore plus chanter sur scène.
Ah oui, ça peut savoir.
Hein, vraiment, il y a une magie pour vous du moment scénique. Le temps s'arrête, on est hors,
c'est
hors du
Nirvana.
Monde.
Ah ben c'est le Nirvana. Si, en tout cas, j'ai jamais été au Nirvana, j'irai peut-être après. Mais pour le moment, je n'y suis pas encore, si j'y ai droit. Mais moi, sur scène, en effet, on est... Enfin, moi, je suis comme une poisson dans l'eau, quoi. Je suis chez moi, j'adore.
Donc là, c'est reparti dans la foulée du disque pour...
Oui, c'est-à-dire que mon problème, c'est que mes chansons sur cet album sont un petit peu différentes quand même du Vanina, Mon cœur est malade et autres dans ces
maintenant. Il y a des chansons engagées, par exemple, on en reparlera tout à l'heure.
Oui, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut que je trouve une manière de faire passer tout ça.
Mais en mélangeant ça avec vos anciennes chansons.
Oui, quand même, mais c'est pas évident de chanter Vanina et de suivre avec une chanson sur la mort par le sida, donc c'est pas évident. Mais je vais y arriver.
Vous êtes en train, là.
Je me réveille à 5 heures le matin, un peu inquiet, et je dis, comment vais-je faire ce tour de chant? Et quand je dis tour de chant, les jeunes rigolent, parce que moi je suis presque la génération des Gréco, maintenant ils disent set list. Mais pourquoi dire set list? On a des très beaux moments. C'est beau, je trouve.
Voilà. Bien sûr, c'est beaucoup mieux.
Mais l'autre jour que je dis cet album est un peu rive gauche, là on m'a regardé avec des grands yeux aussi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Encore ce matin, d'ailleurs.
Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire? On va leur rappeler un peu ce que tout ça voulait dire. Voilà. Et pour ça, on va faire un petit retour dans le temps.
Avec plaisir.
En commençant, tiens, par un coup de chapeau à un artiste qui lui-même n'est plus tellement à la mode et je trouve ça parfois injuste. Je crois que vous l'aimez bien.
Dis donc, vieux, quelle heure as-tu?
Bah, j'ai à peu près la même heure que toi.
Bah, alors, il devrait être là, monsieur.
Il est peut-être amoureux.
Jamais mis en retard.
Il est peut-être amoureux.
Ah, le voilà.
Alors, salut. Raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là. Alors, tu ne dis rien, pourtant tu pourrais bien penser à tes copains.
Parler du rendez-vous,
et c'est voilà, ça. C'est tout ce qu'on a,
qu'elle m'avait donné. Elle est arrivée, je la voyais qui marchait, qui marchait, qui marchait devant moi.
Qui marchait devant toi.
Oui. Elle s'est retournée, m'a regardé, regardé, regardé comme si j'étais le bon Dieu.
Comme si c'était le bon Dieu.
Oui. Moi. Moi, je n'ai rien fait. car dans mon cœur ça tournait, ça tournait,
ça tournait, ça tournait. Alors, ça tournait, mais ça n'a pas tourné pendant toute la soirée, à moins que tu l'aies valsé.
Vous êtes bête.
Alors, raconte. Tu nous avais promis de ne rien nous cacher pendant toute une nuit.
Oh, tout de suite, bien sûr.
Tu as-tu t'amusé?
Et bien voilà.
Elle a pris ma main. Et dans sa main qui tremblait, elle a posé sa joue.
Elle a posé sa joue.
Oui. Moi, j'avais mon front dans ses cheveux qui dansaient, qui dansaient, qui dansaient dans le vent.
Dansaient dans le vent.
Oui, comme, comme il faisait froid. Je l'ai serré, tant serré, tant serré, tant serré.
Alors,
on rêvait, on rêvait qu'on s'aimait, mais ça n'a pas duré, tu sais. J'ai senti qu'il fallait, ah oui, fallait se décider. Je on s'est caché, bien caché, bien caché, sous un coin de ciel bleu.
Sous un coin de ciel bleu.
Oh oui. Là, j'ai vu mon nom, près de son nom qui brillait, qui brillait, qui brillait dans la nuit.
Qui brillait dans la nuit.
Oh oui. Mais pour la quitter, j'ai dû penser que demain ou après j'oserai
quoi
l'embrasser. La 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 la.
La plupart des auditeurs ont reconnu Gilbert Bécaud, mais alors le premier qui l'a reconnu, mais alors, le premier petit bruit du disque, ça a été Dave.
Hein. Oui, absolument. Oui. Ben, mon père était très francophile.
C'est ça.
Donc il m'a fait connaître.
Bien qu'il fût professeur d'anglais.
Il était professeur d'anglais, oui, mais il avait vécu aussi en France et il m'a fait découvrir à l'époque Boris Vian, Mouloudji, Patachou, Catherine Sauvage. Je me souviens que j'étais encore à l'école primaire, j'ai demandé à ma maîtresse ce que ça voulait dire le piano du pauvre, chanson donc de chantée par Sauvage, Catherine Sauvage et Léo Ferré, évidemment. Ouais. Et il savait pas que c'était de l'accordéon, je l'ai su après.
Ah oui, ouais. Et alors donc, Bécaud, vous l'avez rencontré très jeune, si j'ose dire, par
votre
père. Oui,
par la musique. Après, je l'ai rencontré et aussi en vrai, comme on dit.
Il est quand même très, très extraordinaire dans cette chanson de 1956.
Tout court, et c'est vraiment incroyable qu'on n'en parle pas plus. C'est cette immense, immense valeur de Bécaud, quoi.
Oui, c'est voilà. Vrai. Trop dénigré. Absolument. C'est pour ça que je voulais lui donner un coup de chapeau, mais j'aurais pu choisir aussi Mouloudji, Un jour tu verras, Le déserteur de Vian. C'est toutes les chansons de votre jeunesse.
La bombe atomique de Vian.
Mais vous aviez appris le français très tôt?
Aux Pays-Bas, à l'époque, parce que je suis toujours néerlandais, on prenait le français déjà à l'école primaire.
C'est loin. Hein.
À cause de Louis-Napoléon, hein, qui était notre roi quand même.
Ah, voilà.
Ouais.
Ah.
Oui, absolument.
Et donc tous les petits Hollandais apprenaient le français.
Ouais, ça va être fini maintenant, depuis longtemps, je pense. Maintenant, ils vont apprendre l'anglais, les Chinois, mais à l'époque, j'étais. Oui. Mais le français, il y a des Français qui le pensent encore, c'était la première langue du monde. Ouais. Conquérir Vienne, c'est en français.
Oui, c'est vrai.
Il faut peut-être
oui.
Les réveiller certains Français, ce n'est plus le cas, vous savez.
Donc, vous apprenez très tôt le français, la chanson française, un certain amour des bons côtés de notre
et
pays.
Et le vin, mon père.
Et le vin.
Le vin français, oui.
Ah oui.
Absolument.
Et puis un jour, vous arrivez à Paris, mais alors il faut préciser que vous arrivez par bateau à Paris.
Oui, par les voies fluviales.
C'est quand même assez rare dans l'histoire.
Ouais.
Vous êtes arrivé par la voie fluviale avec un ami que vous adoriez.
Ouais, absolument. Oui, parce qu'on est allé voir l'équivalent du Touring Club de France, parce que c'est le Touring Club des Pays-Bas. Il nous a dit que ce n'est pas possible d'aller d'Amsterdam à Marseille par les voies fluviales. On a dit, ah bon, on l'a fait et c'est possible, on l'a fait.
Voilà, parce qu'en fait, vous vouliez aller dans le sud.
Il fallait aller vers les Crimées, parce que mon ami de l'époque, et, qui n'était pas gay d'ailleurs, hein, le pauvre.
Non, mais vous étiez amoureux de lui quand même.
Oui, moi, oui, mais lui n'était pas amoureux de moi, il m'aime beaucoup, c'est une différence. Et donc, tous les deux, on était dans un très, très Dostoïevski, très Raskolnikov, très Tolstoï. Donc, on voulait aller voir les Russes chez eux, ce qui était totalement impossible à l'époque, parce qu'il n'y avait rien de faire.
C'était l'URSS. Ouais,
et moi, je suis resté coincé en France, et lui, il a continué son chemin.
Voilà. Vous étiez un jeune beatnik, on peut dire.
Ah oui, ça s'appelle comme ça. Ah oui, ça, oui. Le livre qui m'a donné envie de voyager, il y en a, sont nombreux, évidemment. On the Road par Jack Kerouac, mais pas que ça. Il y a le livre hollandais, C.S. Notenboom, qu'on connaît un peu en France parce qu'il a été traduit. Mais le livre, n'importe comment, a une importance primordiale de ma vie.
Dans votre vie.
Ouais. Même alors, les vôtres. Sans flatterie aucune.
Vous êtes gentil.
Un petit peu, quoi.
Vous arrivez à Paris, donc vous vous accostez au pied de la Tour Eiffel, ce qui n'est pas vraiment le quartier le plus bohème de Paris.
Je m'en suis rendu compte assez vite. Pour sortir et acheter une baguette de pain, pas évident. Donc on a remis en route sans connaître. Et on s'est arrêté sous le Pont Neuf. Et
là, sous le Pont Neuf. Là, c'était beaucoup mieux parce
qu'il y avait encore
des quantités de café chantant entre Saint-Michel.
Moi, j'ai chanté à l'Écluse.
Vous avez chanté
qui n'était pas un bar à vin. Hein. Voilà. Ah non, il y avait Barbara qui chantait à l'Écluse et moi aussi.
Voilà, et c'est comme ça que vous faites, au fond, vos débuts de chanteur, on peut dire un peu en faisant la manche. Hein.
Ah, complètement, voilà. Totalement. À l'Écluse, j'étais payé, mais sinon, j'ai chanté dans un crêperie rue Saint-André-les-Arts. J'ai gagné très bien ma vie et j'ai mangé des crêpes tous les soirs. C'est pas désagréable.
Et il faut préciser que alors, votre nom sous lequel on connaît aujourd'hui, c'était Dave Rich and the Millionaires.
Ça, c'était mon groupe qui s'appelle The Millionaires. Moi, Dave Rich, en fait, quand j'ai signé mon premier contrat à l'époque avec Phonogram, j'avais choisi David Rivus Vitae, parce que je faisais du latin, j'étais très prétentieux, j'ai pas tellement changé. Et Rivus Vitae, c'est mon nom traduit en anglais. Ah. Et j'ai reçu une lettre de Phono en disant, vous vous appelez Dave Rich. Et j'ai dit, ah bon, d'accord. Je suis tellement content de faire mon premier disque que je n'ai pas protesté. Et c'est Barclay qui m'a dit, attendons un peu. Il m'a dit, on va garder juste Dave.
C'est un peu tôt pour être rich, voilà. On va garder Dave.
Mais Dave, c'était, à l'époque en France, c'était pareil. On avait Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddie Mitchell. Et en Hollande aussi, on prenait des noms qui swingaient en anglais. Elle avait des consonances anglaises. Et moi, j'avais pris David parce que David, dans la Bible, 2 Samuel 1, verset 26, quand il apprend la mort de Jonathan, David dit « La mort que j'ai pour Jonathan m'importe plus que la mort pour ma femme ». Ça m'avait parlé. Et en plus, il jouait de la harpe pour le roi Saoul. Donc, il jouait un instrument et il chantait l'amour et il aimait Jonathan. J'ai dit, je vais m'appeler comme lui.
Oh là.
Voilà pourquoi David, qui est devenu Dave.
Alors, on fait un tout petit saut dans le temps, Dave, et on va arriver à ce spectacle qui, moi, m'a beaucoup marqué, tout gamin, où vous chantiez, qui a été, on peut dire, le vrai, peut-être, démarrage de votre carrière.
Quelle est ta route? Quelle est ta route? Emmène-moi où tu. J'ai besoin de toi. J'ai si froid. Quelle est ta route? Par-dessus les horizons, les horizons. Prends des airs de paradis, oh, dis, emmène-moi, laisse-moi te suivre.
souvenir. Là, c'est à mon tour.
Ah, pour moi, c'est chair de poule obligatoire. Là.
Ça s'appelait Godspell. C'était au Théâtre de la Porte Saint-Martin en 1973.
En 72.
72, ouais,
72,
73.
Et après, en tournée, deux ans.
Voilà, un énorme succès. Ah, ouais, ouais. Une comédie musicale dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire inspiration un peu hippie,
oui,
mais autour du Christ.
Oui, l'évangile selon Saint-Matthieu.
Voilà.
Selon Saint-Matthieu, il y avait peu de gens croyants sur la scène, mais tout le monde croyait dans le spectacle.
Voilà. Un grand succès, vraiment aussi, on peut dire, là, j'entendais cette chanson, vous êtes avec Armand Altaï, là, une très belle musique de Stephen Schwartz.
Absolument, qui a fait d'autres comédies musicales depuis, hein, qui est très connu comme compositeur. Et Armand, avec lequel j'ai après fait Ubu Roi avec George Wilson sur une musique contemporaine d'Antoine Duhamel.
Ça,
c'est pas mal non plus.
Un petit peu plus tard
Avignon. Non,
Avignon,
en 74.
C'était le grand écart quand même.
Godspell et puis Vanina, c'est encore un très très grand écart. Encore que Vanina, c'est quand même de la musique classique à l'origine.
En tout cas, j'ai remarqué, vous citez souvent Godspell comme vraiment le moment où vous avez tout appris.
C'est mon université, comme dirait Philippe.
Durant ces 700 représentations.
Ah ouais, absolument.
Une bande d'amis, une formation musicale, une formation de la scène.
Et très souvent, Godspell au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une malaise un peu. On était vite sur scène, avec des tenues assez lugubres. Oui. Puis on partait en courant, se changer dans les coulisses de la théâtre et on revenait en petit clown.
Un petit clown, voilà.
Et donc, moi, je commence souvent dans un truc assez triste pour après aller vers la
joie.
Ah,
vous avez gardé ça, par exemple.
J'ai gardé ça. Ah, oui. Et juste avant la fin, je mets un truc triste comme la mort de Jésus dans le spectacle. Donc, le schéma de mes spectacles est basé sur Godspell, qui pour moi était génial dans le sens divine, quoi. Pour moi, c'est touché par Dieu, quoi.
Et puis, c'est aussi la rencontre de quelques-uns de vos meilleurs amis, notamment Daniel Auteuil, qui faisait aussi ses débuts dans ce même spectacle.
Voilà, hein. Voilà. Donc, on ne s'est jamais quitté depuis. Donc, c'est beau.
Voilà, Godspell, c'était un moment vraiment formateur pour vous.
Oui,
et puis, alors, ce qui est amusant aussi, c'est que, on va revenir sur vos premiers succès de chanteur de variété, mais vous êtes aussi allé prendre à ce moment-là des cours avec une très grande artiste lyrique.
Ah oui,
qu'on
René
salue,
Dorian.
Elle a presque 100 ans, elle s'appelle René Doria, c'est peut-être la doyenne de l'art lyrique français.
Oui, très jolie mezzo, et j'ai beaucoup de disques encore avec elle, avec Alain Vanzo, avec des gens de cette époque-là. Ouais.
On va en écouter un petit bout.
Ah, bah bien.
Mais elle formait beaucoup de jeunes chanteurs, en fait.
Pas vraiment, mais en fait, Roland Ribet, qui était mon premier impresario, comme on dit aujourd'hui, quand il m'a entendu chanter, c'est même la première fois qu'on m'a dit ça, au lieu de me dire, qu'est-ce que c'est bien ce que vous faites, il m'a dit, c'est pas mal aujourd'hui, mais méfiez-vous quand vous vieillissez, le mieux c'est que je vous en faire prendre des cours. Ça m'a un peu humilié quand même. Hein? Mais après, j'ai adoré faire ça. Et j'ai failli partir dans le lyrique. C'est juste que j'ai eu la chance de faire Vanina, qui est un peu lyrique quand même, et que je ne suis pas devenu un chanteur lyrique. Je n'avais peut-être pas les moyens, c'était nos problèmes. Mais j'étais quand même un teneur presque wagnérien, quoi.
Mais d'autres, je crois, comme Marie Laforêt
ou
d'autres, ont travaillé chez Doria.
Ah, oui, absolument. Et même, comme il s'appelle déjà, qui était l'homme d'affaires d'Aznavour jusqu'à la fin.
Levon Saillant.
Il était tenor, je l'ai connu chez René Doria.
Et alors, ça se passait comment un cours chez René Doria? Vous aviez des vocalises
Oui, il m'a fait chanter quand même beaucoup, beaucoup de choses.
Ah oui, vous appreniez des airs aussi.
Oui, absolument. Elle voulait monter un spectacle à un moment à 18h à l'Olympia. Et puis, entre-temps, moi, je suis devenu connu dans un autre style de musique. Et ça m'a même fait partir un peu bizarrement, parce que on chante pas la lyrique et les variétés de la même manière,
de la même façon,
on ferme les notes,
c'est ça, ouais.
Donc dans Godspell ça s'entendait encore un peu que j'étais mal barré, mais je m'en suis sorti.
Tiens, on lui donne un coup de chapeau à notre cher René Doria dans une page extraite des Pêcheurs de Perles avec Alain Vanzo, justement.
Dieu, c'est elle, Leïla, ne redoute plus rien. Me voici, je suis là, prêt à donner mes jours, mon sang pour te défendre. Chante encore, je toi que j'adore.
c'était Jésus Echeverri qui dirigeait l'orchestre. Ah, belle version que vous avez donc vous aussi,
quelle
Dave.
Quelle émotion. Hein. Ah, là, 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 là.
Elle monte encore plus haut que vous dans l'aigu.
Ah bah oui, on n'est pas fait de la même manière. Mais, mais, non, non, moi, mais j'aime, bien, que... j'aime bien le haut de contre aussi.
Je
hein.
sais, je sais. Je crois que vous écoutiez tout jeune Alfred Delair, des choses comme ça.
Absolument.
Ça vous a marqué.
Ah oui, j'adore, j'adore toujours. Non, c'est vrai que ça m'émeut énormément d'écouter la voix, parce que la voix est un instrument.
Ah, oui.
Moi, j'ai grandi avec Kathleen Ferrier, que j'écoute le leader de Parel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, dans ma voiture, où c'est moi qui décide ce qu'on entend, on n'écoute que du lyrique.
Voilà, mais chez vous, c'est plutôt Patrick...
C'est plutôt le Californien.
Plutôt californien, ouais, voilà. Mais dans la voiture classique, vous avez des compositeurs de...
De Monteverdi, tout ce qu'on peut écouter. Donc, en passant par Alfred Delair, en effet, il y en a un français qui le fait pas mal. Hein,
ouais,
donc,
ouais. Ouais. Mais pas seulement de la musique vocale.
Non. Ça m'emporte et je me sens vraiment tout petit, sans fausse modestie. Quand j'entends ces musiciens-là, je dis c'est quand même injuste de gagner autant d'argent en chantant des choses moins importantes.
Alors il faut dire, Dave, qu'avant même le succès de Godspell, puis vos chansons les plus célèbres, vous aviez déjà enregistré un premier disque, Si je chante, c'était le premier titre, non ?
En France, oui, mais j'ai fait mon premier disque, j'étais encore au lycée. C'était aux Pays-Bas.
Ah, celui-là, je ne connais pas.
Ah oui, oui. Aux Pays-Bas, j'ai fait mon premier disque en 63.
Ah bon ? On le trouve, celui-là c'est...
Pas facile, je pense. Pas facile, c'était pas un succès inoubliable.
C'était
donc,
quoi ?
J'avais un directeur artistique, comme on ne dit plus, qui avait, lui, eu un énorme succès à un groupe qui s'appelle The Blue Diamonds avec Ramona.
Ouais.
Ramona, je fais un rêve. Et en anglais, et ça a été, il a vendu des millions de disques, notamment grâce au succès en Allemagne. Donc, suivant ce succès-là avec une vieille chanson, quand il m'a signé moi, il est allé dans un livre avec plein de vieilles chansons, et il a pris une chanson qui s'appelle Girl of My Dreams, donc j'ai fait une adaptation de ça. Et quand tu écoutes ça, on entend bien l'influence que j'ai eue par, notamment Roy Orbison, qu'on connaît peu en France, malheureusement, qu'avec une chanson, et d'Elvis Presley. Ça veut dire que je baritone un peu, quoi.
Ouais.
Mais c'est mignon, quoi.
C'est mignon. Ouais, c'est et bien. Votre premier disque français, alors Si je chante?
Si je chante,
avec Jean Bouchetti, grand arrangeur de l'époque.
Absolument, ouais. Jean Bouchetti, oui. Et enregistré à Lansdowne Studio, parce que Jean Bouchetti avait fait Los Bravos avec Black is Black, en français, par Johnny Hallyday, Noir c'est Noir. Et donc là, c'est vrai que c'était encore moi qui écrivais paroles et musique à cette époque. Voilà. J'étais compositeur, oui.
Et vous vouliez tout faire, écrire les paroles, les musiques et ne pas prendre de cours de chant. Finalement, vous avez fait tout le contraire.
Oui, mais c'est-à-dire que quand j'ai signé finalement avec CBS, où j'ai fait mes gros succès, le directeur artistique m'a engagé. Il m'a dit, le chanteur, oui, le compositeur, non.
Ah,
donc,
voilà.
Comme Paris vaut bien une messe, j'ai accepté.
Et alors, les choses ont changé, notamment aussi avec la rencontre d'un certain, les auditeurs ne le connaissent pas forcément, Jean-Jacques Souplet.
C'est lui qui absolument. Que j'aime beaucoup parler de lui parce que malheureusement, il a été enlevé par un cancer et je suis toujours en contact avec sa femme qui s'est retirée très très loin en Thaïlande et qui lui avait eu beaucoup de succès déjà avec un groupe qui s'appelle Titanic. Après, il a produit Gérard Normand. Il avait vraiment les doigts de Midas, quoi, les rois Midas. Il changeait tout en or. Donc, quand il m'a signé, il m'a fait faire mon premier succès qui n'est pas Vanina, qui est Sugar Baby Love en français et en anglais.
C'est celui-là qu'on va écouter, parce que j'aime bien aussi, moi. Alors, c'est une chanson des Rubettes, à l'origine.
Mais c'est-à-dire que, vous savez, les gens ne le savent pas, mais quand il y a dans une maison de disque une personne qui doit écouter ce qui est fait dans d'autres pays.
Ouais.
Et donc, ces personnes-là, ces CBS, avaient entendu...
Ah, c'était un métier, ça ?
Oui,
quasiment.
Métier.
On
oui.
écoute tous les tubes qui sortent en Amérique
ou
en Angleterre.
Oui, ça, pour la France, oui, pour la France, non.
Oui.
Et il a entendu, donc, Sugar Baby Love par le Rubettes, et il a dit, c'est pas pour la France.
Ah, c'est drôle.
Ah oui, c'est bien trompé.
Il y avait ça.
Il s'est bien trompé.
Ouais. Ouais.
C'est pas le meilleur de maison de disque. Hein. J'espère qu'il nous écoute pas. Entre temps, il a Dieu. Et donc on a dit, mais la chanson est libre, vas-y, toi. Et donc, j'en ai vendu 400 000 en anglais et 300 000 en français. Donc, le disque suivant, je l'ai fait aussi en anglais et en français. J'en ai fait 40 000 en anglais et 1 million en français. C'était Runaway, c'est-à-dire Vanina.
Voilà.
Et c'est pour ça que je suis devenu un chanteur
francophone. C'est aussi donc une adaptation. Hein.
Absolument.
Voilà. Et avec toujours déjà les paroles...
De Patrick Loiseau.
De Patrick Loiseau, ouais. votre ami qui dès le premier succès, est là, en fait, a signé les paroles françaises.
Hein. En fait, les paroles françaises étaient faites par un garçon qui est toujours là, qui s'appelle Yves Desca, qui me parle à l'époque à la mode, qui m'avait fait des paroles et Souplet n'a pas aimé. Et moi, j'ai dit à Patrick en rentrant à la maison, essaye-toi, you never know, on ne sait jamais. Et ben voilà, il est venu parolier.
Et on va voir d'ailleurs, justement, déjà dans cette chanson, un peu comme dans Vanina, vous disiez que vous aimiez le haut de contre, mais vous allez vous balader nettement dans les... C'est vous qu'on entendait le début, hein.
Heureusement que c'est moi.
La vocalise.
Oui. Ah, oui,
c'est bien vous, c'est pas un effet.
Ah, non, c'est moi.
Ah,
Cette chanson.
Je ne pourrais pas le chanter à 11 le matin. Hein. Faut l'avoir chaud, là pas tout de suite.
Des Roubettes avec vous-même, Dave, donc dans cette performance vocale, hein, on peut dire.
Hein. Il y a des gens qui pensent que j'étais le chanteur de Roubettes. Hein. Oui. Donc ils m'ont découvert avec Vanina le disque suivant. Oui. Les gens ne savent pas trop encore qui j'étais. Quoi.
Mais là, vous avez vraiment enchaîné les grands succès. Ah, oui. Et aussi, je dirais qu'il y a dans ces deux chansons, d'ailleurs aussi Vanina, il y a quand même une couleur qui est presque pré-disco, un petit peu. Il y avait une espèce de kitsch dans l'arrangement qui marche très très bien, je trouve.
Oui, parce qu'il y a du doo-wop dedans. Et le doo-wop date des années 60. Oui. Tout à fait, oui, c'est le style. Ouais.
Et l'arrangeur de l'époque, c'était Guy Matteoni.
Guy Matteoni, oui, que j'ai retrouvé bien plus tard, oui, absolument, qui fait énormément de succès. Hein,
voilà.
Pour
Gérard Lenormand et autres.
Plein de monde, ouais.
Voilà. Mais vous aimez le travail du studio, la fabrication d'un tube?
Ah, mais c'est
tube.
Passionnant, c'est un travail de laboratoire.
Oui.
Et comme moi, je suis très modiable, donc le producteur, comme on dit aujourd'hui, le directeur artistique, comme on disait à l'époque, c'est comme un réalisateur de film, j'essaie de lui plaire, de faire ce qu'il veut entendre. Oui. Donc après, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais c'est lui qui décide comme je chante.
Ah oui, c'est le patron, c'est le chef d'orchestre.
Absolument.
Voilà. Ouais. Mais vous êtes là, vous êtes consciencieux, vous êtes là tous les jours, vous suivez, vous écoutez, vous réécoutez. Vous savez, il y a des chanteurs qui arrivent pour le playback.
Le premier note de la basse, c'est celui-là. Je vais tout entendre.
Voilà. Alors, cet enchaînement de succès assez extraordinaire, ça vous paraissait peut-être naturel à l'époque, mais parce qu'on s'y habitue vite. Hein.
Oui, je me souviens, il y avait à cette époque un chanteur qui est toujours là, qui s'appelle Gilles Olivier. Et mon directeur statistique dit, ah, c'est bien, on est à 100 000. Moi, j'étais à 1 million. Je dis, oh, le pauvre. Et il m'a dit, tu seras un jour très content de faire 100 000. Et il avait bien raison.
Mais là, vous ne vous rendiez pas compte du tout.
Il vendait 3 millions de disques sur 18 mois. Vous vous rendez compte?
Voilà, parce que Trop beau, c'est juste avant Vanina.
Vanina, après, il y a Mon cœur malade, Danser maintenant, et du côté de chez Swann.
Et du côté de chez Swann, c'est juste, tout sera quasiment la même année. Enfin,
quasiment, sur 2 ans. Quelle connerie.
Vous auriez dû étaler dans le temps.
Exactement. Ça prouve que j'étais con comme tous les jours.
Ça veut dire que vous résonniez avec l'air du temps,
sûrement.
En tout cas, il faut dire, Dave, pour en finir avec les grands tubes, après on va passer à des chansons un peu moins connues, mais que du côté de chez Swann, ça marque quand même un certain tournant, parce que les deux chansons qu'on a entendues là sont des adaptations de chansons américaines. Oui. Du côté de chez Swann, c'est une chanson originale.
Franco-française, tout à fait.
Franco-française.
Exactement. Et bien content, d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que c'était Danser maintenant, qui était le disque précédent du côté de chez Swann, était mon premier et plus grand succès aux Pays-Bas. Ouais. Et donc, comme on a suivi en France avec du côté de chez Swann, donc un de mes plus grands succès en France, aux Pays-Bas, ça n'a pas marché du tout. Que c'était trop.
Trop français.
Et il y avait un texte avant que Patrick a trouvé l'idée de du côté de chez Swann, de Didier Barbelivien, qui appelait ça My Lady, parce qu'il trouve à juste titre qu'il y avait un petit côté Milord de Moustaki, enfin de Piaf, donc. Genre de refrain, quoi. Et moi, c'est... Donc, il a fait Milady, ça ne m'a pas plu. Patrick a fait mieux, puis l'argent rentre à la maison.
Alors, c'est parti du texte. Hein. C'est votre ami Patrick Loiseau, donc, qui est venu avec le texte.
Absolument.
Vous n'étiez pas convaincu, d'ailleurs. Hein.
Non, je trouve ça, on va dire, un peu un peu lourd, un peu trop intellectuel pour ma clientèle.
Sophistiqué.
Oui, un peu trop sophistiqué. Ouais. Et quand je l'ai chanté à l'époque, il y avait des conventions de maisons de disques. C'est un tel succès dès le début que je dis, bon, il a sûrement eu raison.
Voilà. Il a trouvé donc, le texte, et après, vous avez cherché la musique, vous en avez essayé plusieurs.
Oui, mais
c'est comme ça qu'on faisait aussi.
Non, c'est quand même quand il a eu la musique, ça s'est marié comme ça, c'est comme ça que ça se fait. Moi, c'était la chanson qui était numéro 1 pendant la semaine, parce qu'à l'époque, il y avait un hit parade France Inter.
France Inter,
c'était numéro 1 hit parade, oui. Ça a bien changé depuis.
Je qu'on oublie. Hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant j'y paierais cher pour revivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie, et puis un jour il suffit d'un parfum la magie d'un matin, et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin.
En 1975, évidemment, tout le monde connaît la chanson. Tout le monde ne sait pas forcément que vous n'êtes pas du tout un fou de Marcel Proust. Hein.
C'est vrai, je pense qu'il faut être francophone de naissance pour la poser. Voilà. Je le lis quand même, ça m'intéresse.
Ouais. Mais c'est disons, pas le genre de littérature qui vous porte le
plus. Je suis plus proche d'Dostoïevski ou de Charles Dickens ou de peut-être parce qu'ils sont plus du Nord, c'est pas très latin.
Vous étiez grisé par la gloire de cette fin des années 70.
Ah ben, c'est marrant que vous me dites ça parce que tout à l'heure, en arrivant ici avec mon attaché de presse, et j'ai dit, c'est marrant parce qu'un souvenir très fort au moment de Vanina, à l'époque on pouvait encore rentrer avec la voiture, mais le monsieur n'a pas voulu lever le barrière pour me laisser passer avec ma voiture. Oui. Et j'ai dit cette horrible phrase, mais enfin, vous ne savez pas qui je suis.
Vous savez pas
c'est vraiment
qui
une
je
grosse
suis.
Connerie qu'on peut dire quand ça débute. Quoi. Ça prouve que j'étais un petit peu, là, j'avais un peu la tête quand même.
Vous aimiez les fans agglutinés
J'aimais bien ça parce que ça rassure, mais je n'aimais pas dans le spectacle que ça hurle.
Votre public était plutôt masculin ou féminin?
Ah non, très féminin.
Très féminin.
Et pas de justice. Non, c'était les minettes, leur mère et leur grand-mère.
Et vous chantiez des chansons sur les femmes, pour les femmes. Et d'ailleurs, vous ne dédaigniez pas non plus les femmes. Hein.
Ah, non,
vous l'avez expliqué dans des livres.
Ah oui, oui, oui.
Vous
oui,
êtes
aucun problème.
Éventuellement.
Dieu m'a fait ainsi.
Vous avez d'ailleurs écrit, Dave, il y a quelques années, un livre très, très intéressant et très, je dirais, très sincère, honnête, où vous dites tout de vous-même. Ça s'appelle, enfin, tout, je ne sais pas, mais beaucoup. J'irais bien refaire un tour, justement. Et vous dites parmi les bons côtés de cette gloire, il y avait aussi l'argent.
Ah ben oui. Voilà. Pour pouvoir dire merde, il faut de l'argent. Voilà. C'est aussi simple que la liberté est aussi faite par l'argent. Quoi. Donc oui, oui, oui. Je me rends compte lucidement de la valeur de l'argent dans une société capitaliste. Donc
ouais.
Voilà, évidemment, évidemment.
Voilà, donc tout ouais. Ça a été...
Et je suis très content d'être un peu à l'aise, mais et que je suis capable de refuser Danse avec les stars. Quelle horreur, j'ai pas du tout envie de faire ça. Quoi. Mais je comprends très bien qu'elle accepte. Un jour, j'ai dit à Régine, mais pourquoi t'as fait la ferme?
C'est vrai. Ah oui, c'est ça.
Elle m'a dit, mais
pour les sous.
Pour les sous,
voilà.
Voilà, ça existe. Et pour le moment, je peux encore vraiment passé.
En tout cas, vous avez quand même senti, effectivement, dans les années 80, qu'il y avait quelque chose qui changeait dans le cours de votre carrière, et ça vous a mis un certain temps à le comprendre, mais ce n'était pas forcément très agréable.
Ah ben, c'est sûr que quand on est en haut de l'affiche et qu'on descend, c'est-à-dire que c'est assez lourd, quoi. Quand toute la journée, vous entendez « Alors, vous ne chantez plus, qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Alors, ce n'est pas évident pour l'ego, et je me souviendrai toujours de... À cette époque-là, j'habitais sur le bois de Boulogne, du côté de Roland-Garros, et je disais à mon compagnon, en sortant de la chambre vers 1h du matin, aujourd'hui, personne ne m'a dit, vous chantez toujours. Il y a une voiture de flic qui s'est arrêtée. Le mec a ouvert sa fenêtre. Il me dit, oh, Dave, vous chantez plus? Juste avant de me coucher. Merci beaucoup.
Alors, heureusement, comme vous dites, heureusement, la province s'en apercevait un petit peu plus tard que Paris, que vous n'étiez plus à la mode.
Heureusement que je pouvais faire les gars. Je pouvais travailler payé au noir. Quand on est connu, on ne peut pas. Donc ça m'a permis de régler mes dettes aux impôts, peu comme dans l'industrie italienne. Le fisc s'en fout que c'est payé au noir, et donc je peux le dire parce que grâce à des fiscaux, c'est plus que 3 ans qu'on peut vérifier, donc il y a fort longtemps, j'ai réglé toutes mes dettes, je ne dois plus rien aux impôts, sauf que je dois tous les ans, grâce au fait que j'étais moins connu, que je pouvais aller chanter dans les discothèques. Mais
c'était pas drôle de chanter dans les discothèques, c'est le pire endroit pour un chanteur.
C'est horrible, Encore que pour une femme, c'est dur. Je me souviens de Jean Manson qui disait, quand je chante dans une discothèque, il disait à poil, moi on me l'a jamais dit.
Alors on va faire un petit saut dans le temps, Dave, et vous retrouvez sous votre, non pas votre vrai prénom, mais votre vrai nom, Dave Levenbach, comme ça qu'on dit ?
Oui, absolument, bravo.
Votre Combar. Nom hollandais, Combar. Dans un disque que vous avez fait en 2006, et dans lequel il y a une très belle chanson qui s'appelle Tout le plaisir a été pour moi.
Oui, j'aime beaucoup
cette chanson. Dites-nous un mot de ce disque et de cette chanson.
C'est-à-dire que ma maison de disque, à un moment, a voulu que je mette mon nom pour marquer un changement, peut-être, j'étais pas trop pour, parce qu'à l'époque, il y avait une chanteuse qui existe toujours, et qui est toujours une jolie femme, et qui chante très bien, qui s'appelle Julie, et qui avait ajouté son nom de famille à son nom, Julie Pietri. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu Julie Pietri, et je n'avais pas envie de faire Julie Pietri. Et j'ai même dit à un déjeuner avec Marc Lefugel, qui me recevait le soir dans l'émission.
Marc-Olivier, un de vos grands amis.
Mais je lui ai dit, tu ne vas pas parler de Julie Pietri, je te raconte ça entre nous. Et la première chose qu'il me dit dans l'émission, c'est « Alors, on fait Julie Pietri ?» Quel salaud, celui-là. C'est un ami pourtant. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, cette chanson est une chanson brésilienne, que j'adore, et que j'ai pas beaucoup de facilité à la faire, parce que c'est un tempo qui me... Moi, si, comme disait quelqu'un, je suis un chanteur très binaire, et c'est pas si binaire que ça, mais le texte est très réussi, il raconte ma vie, elle est très autobiographique et très bien écrite déjà par Patrick Loiseau, et c'est la dernière fois, donc en 2006, que j'ai fait un disque avec des chansons originales, donc il y a 13 ans.
Voilà, c'est le précédent, alors on va passer au nouveau, petit retour en 2006.
J'aime bien la vie que j'ai, telle qu'elle est, elle me plaît, même avec ses tristesses. Mes printemps sont partis, j'en ai pris mon parti, tant que du temps me reste, ça me va. Malgré les coups durs et quelques courbages, les passages à vide et les aléas, mes creux de la vague et tous mes faux pas, j'en ai vu de plus malheureux que moi. J'ai fait l'imbécile et quelques dégâts, j'ai aimé des filles et aussi des gars, mais je pourrais dire quand mon tour viendra, que tout le plaisir a été pour moi.
Tout le plaisir a été pour toi.
Hey. Chaque instant est volé entre être et avoir été. L'éternité est brève. À un moment donné, il faut tout abandonner et se quitter malgré tout. Enchanté. Malgré tous les trains que j'aurais ratés, deux ou trois chagrins qui m'ont pas quitté, malgré ces amours qui ne m'aimaient pas, j'en ai vu de plus malheureux que moi.
vu couler. J'aimerais vraiment dire quand mon tour viendra que tout le plaisir a été pour moi.
C'est à la fois le nom de la chanson et le nom de l'album dans lequel elle est sortie en 2006. Dave, tout le plaisir a été pour moi très très jolie chanson personnelle, autobiographique. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de choses très personnelles, voire autobiographiques, dans votre nouveau disque dont on va parler dans un instant.
Tout. Sauf la chanson de Renaud, c'est sa vie,
sauf
pas la
première,
mienne.
Voilà, la chanson Une femme qui s'en va.
Voilà, la chanson de Renaud, c'est
ça. On va en reparler dans un instant, mais je voudrais encore faire une petite parenthèse sur les amitiés, les rencontres marquantes. Il y en a eu beaucoup, on ne va pas toutes les évoquer, mais deux, trois noms comme ça qui me viennent à l'esprit. Vous avez fait le bœuf avec Serge Gainsbourg, à l'époque où vous sortiez beaucoup la nuit.
Ah oui, mais c'est parce que c'est drôle, d'ailleurs. Parce que c'était Charlotte. Et c'est Dean,
Charlotte adorait vos chants.
La suite est moins drôle parce que j'ai lu une fois un article dans lequel Charlotte disait « Quand j'étais petite, j'avais une goutte shot. »
Ah oui, zut alors.
Alors, un jour, on se trouve au Château Marmont à Los Angeles et je voulais lui poser les questions si elle parlait de moi. Et elle était partie juste avant que j'ai pu lui poser. Un jour, je lui demanderai.
Alors, du coup, Serge, vous aimez bien peut-être pour faire plaisir à sa fille.
Exactement,
je sais pas,
moi, c'était que ça.
Et alors, vous vous retrouviez la nuit quelquefois dans des bars
ou
des endroits.
Oui, il y avait un club à l'époque qui s'appelait l'Élysée Matignon dans lequel il y avait une espèce de piano qui sort du sol et j'étais quand même un petit peu imbibé, lui aussi, et on chante ensemble, c'était mignon.
C'était mignon. Dans les amis, évidemment, il y a aussi Françoise Hardy.
Je n'aurais pas appelé ça mon amie, elle a dit que Patrick Loiseau et son ami, ils ont écrit une chanson ensemble, Noir sur Blanc, et Patrick est fan de Françoise Hardy depuis toujours, et s'il a un idole dans sa vie, c'est sûrement pas moi, c'est Françoise Hardy.
Vraiment?
Ah oui, complètement.
Ah bon, il le confirmerait.
Moi, je passe
devant
à la radio,
vous.
Il n'écoute même pas. Mais quand il y a Françoise, ne serait-ce qu'un moment dans une émission, moi, je ne suis pas jaloux, hein, je suis ravi qu'il est heureux. Françoise Hardy, dans sa vie, elle lui a sauvé la vie. Il y a des gens comme ça pour lesquels la musique est tellement importante, vous pouvez peut-être comprendre ça, que sans musique, ils ne seront plus là.
Ouais.
Et je le conçois, ça. Et lui, c'était Françoise Hardy, qui l'a fait survivre. Donc, c'est beau.
Et donc, il faut écouter un Noir sur Blanc qu'il a écrit pour elle. Et puis aussi, alors, si on veut saluer alors une grande aînée qui nous entend peut-être, qui vit aujourd'hui dans le Midi, je crois, c'est Annie Cordy. C'était une, amie. Hein.
Ma vie était... Tous mes spectacles, c'était avec des femmes. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je ne veux pas prendre un beau jeune homme qui chante bien en première partie. Donc, eux, ils prenaient plus... Les femmes prenaient plus que des garçons. Donc, mes premières tournées, c'était avec Nana Mouskouri qui m'a appelé il y a quelques jours parce qu'elle avait entendu une interview à la radio. Nana Mouskouri que j'adore. Après, en effet, c'était Annie Cordy et aussi Mick Michel. Donc, il y a beaucoup de femmes très importantes.
Et je voudrais justement qu'on dise un mot de Mick Michel, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Elle nous a quittés il y a très très peu de temps, cette année. Et j'ai vu avec, je ne peux pas dire avec joie, mais enfin ça m'a touché que vous étiez présent à ses funérailles.
Ah ouais. Et j'étais très touché, moi, par la présence de Laurent Gérard, parce que ça prouve que c'est un garçon qui est quand même bien dans la vie aussi. Il s'est déplacé. C'était sa marraine et c'était ma marraine.
Comment vous l'avez rencontré, Mick Michel?
Mick, dans une émission de vos confrères de RTL, il y a très longtemps, je pense que c'était en 68, et elle était la vedette de l'émission, et moi, je n'ai que compris qui il était quand elle a chanté Un gamin de Paris, mais que moi, je ne connaissais pas Patachou. C'était un tube vraiment mondialement connu.
Aux Pays-Bas,
on connaissait Patachou et Un gamin de Paris. Et donc, j'ai dit, c'est elle qui l'a créé. Et dans l'émission, elle a dit, après m'avoir entendu chanter, mais ce garçon, je vais m'en occuper. Et moi, je croyais que c'était sexuel, mais non, ce n'était pas sexuel. Elle s'est vraiment occupée de moi.
Elle était très attentive.
Elle s'est beaucoup occupée des jeunes chanteurs. Elle avait des émissions de télé. Il m'a fait faire une émission appelée Ce sacré métier en 1969. J'étais pas mal ridicule à l'époque, comme tout le monde d'ailleurs, sur mon vestimentaire. Elle m'a fait faire une permanente. J'étais d'accord pour tout. Mais non, c'était. Et puis je suis parti en tournée avec elle aux Pays-Bas. On a fait une trentaine de dates aux Pays-Bas. Et non, c'est formidable souvenir. Et puis, elle est très fidèle. Donc, jusqu'à sa mort, elle m'appelait, on s'appelait. Elle appelait Nana, elle appelait Annie Cordy. Quand j'avais au téléphone Annie ou Nana, elle me dit, t'as eu Mick aujourd'hui? Je dis, non, pas encore. Elle prie pour nous.
Alors, j'ai là cette chanson, justement, de 1969, hein, Je bois dans ton verre.
Ah, que j'écris pour elle, oui.
Vous l'avez écrite pour elle. Ouais. Comment ça s'est fait, comme ça?
Mais parce que j'écrivais pour les autres à l'époque. J'écris pour Nicoletta. En attendant de marcher moi-même, il fallait bien que je mange. Donc, je travaillais aux éditions Barclay, à l'époque, nouvelles éditions Barclay, et on travaillait tous les jours. Et
il y avait ça aussi dans la vie d'un jeune
On était payé au mois.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui.
Il y avait des grands auteurs, Michel Jourdan, Jean Schmitt. Les premiers de la bande qui s'est mis à marcher, c'était Fugain. Et après, il y a eu Sardou qui s'est mis à marcher. Et donc, et puis après, il y a eu moi aussi, donc c'était sympathique. Ouais.
Voilà, donc « Je bois dans ton verre », c'est 1969, effectivement, Mick Michel qui chante ses paroles sur la musique de Dave.
« Je bois dans ton verre, je lis tes pensées, je voudrais te plaire parce que tu me plais. Je bois dans ton verre pour te deviner, que me faut-il faire pour te consoler, sans être sorcière, je sais qui tu es, quelle est la frontière qui t'a vu passer, je bois dans ton verre pour te deviner, que me faut-il faire pour te consoler, je bois dans ton dans le mien, ombres et lumières jouent dans notre vin. Moi, la solitaire, et toi, l'étranger, nous faisons la guerre aux amours passés. Je bois dans ton verre et tu bois dans le mien. J'ai cassé ton verre, tu n'as pas bronché, il n'y a rien à faire pour te repêcher. Si mon verre est vide, ton cœur l'est aussi, tu marques une ride.
Je bois dans ton verre et salut à Mick Michel qui nous a quitté voici quelques mois à l'âge de 97 ans.
Ouais, c'est vrai.
Après une vie riche en chansons, mais aussi en spectacle, en sculpture.
En sculpture, absolument. Ouais, c'est
voilà, vrai. La chanson que vous aviez écrite pour elle, Dave, en 1969. On revient à votre nouvel album, sorti donc ce vendredi 13 septembre 2019. Le déclic, ça a été justement une rencontre un peu inattendue avec Renaud. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Renaud, qui donc est installé depuis une trentaine d'années dans la ville de René Char, qui est devenue la ville de Renaud.
Voilà. Ah, bah, aujourd'hui, on connaît ça comme la
plutôt,
ville de Renaud.
Plutôt.
L'île sur la Sorgue.
Ouais, celui René Char a laissé des traces un jour, Carla Bruni m'a cité un poème en entier de René Char.
René Char.
Donc, bravo.
Oh, Carla
bravo.
Bruni, d'accord.
Carla Bruni, c'est quand même un grand intellectuel. Mais sinon, je pense que le public connaît plutôt Renaud, à juste titre, qui est un immense poète aussi, et pas si maudit que ça. Donc, c'est vrai que son oncle lui a laissé une maison qu'il a améliorée. Il est là très souvent. Moi, je suis arrivé il y a 24 ans bientôt, ouais. Et quand on se croisait, on se saluait, puis ça s'arrêtait là. Puis un jour, quelqu'un a eu la bonne idée de me l'amener dans un petit concert que je faisais. Je suis parrain d'une organisation qui s'occupe des chiens guides pour les enfants, et il était dans la salle.
Alors, chiens guides pour les enfants
ouais.
aveugles,
hein, c'est ouais, ça oui, oui, parce que les enfants normaux n'ont pas besoin de chiens guides, voyez-vous. Ouais. Je ne suis pas vous agresser,
non,
mais quand même.
Excusez-moi, oui, cher, mais j'aime bien être précis et clair.
Vous avez bien fait, parce qu'on ne sait pas si les gens écoutent bien. Mais en tout cas, donc, il était dans la salle. Ça fait le buzz, ça m'a fait plaisir aussi d'avoir un confrère dans la salle.
Ouais.
Et donc, il est venu après dans la loge en disant ces mots formidables. Mais Dave, vous êtes un clown musical.
Un clown
enfin,
musical.
Il m'a tutoyé. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que j'aime
vous
beaucoup.
Vous connaissiez, vous n'étiez pas rencontré dans le métier.
On s'était croisés. Non, non, parce non. qu'on était quand même deux familles
oui,
musicales
assez éloignées.
Très éloignées. Ouais. Il n'y a pas longtemps, sur des gentils tweeters ont dit, ayant appris que j'ai fait un album produit par Renaud. À quand Maître Gims va produire Mireille Mathieu? Oui, donc on se fout bien de nous. On s'en fout. Et puis Renaud, donc après m'avoir entendu, on s'est commencé à se voir plus régulièrement. Et puis après, il a eu son propre album donc qu'on connaît d'il y a trois ans, qui a fait ce résultat extraordinaire. Et puis là, j'ai dit à un ami à lui, qui est un compositeur, qui m'avait écrit une chanson qui s'appelle « Dernier regard », qui est sur l'album, qui m'a dit « Mais moi, je ne suis pas sur l'album de Renaud. » Je dis « Mais ce n'est pas grave, on va faire un album nous. » Sachant très bien que ce n'est pas le même potentiel, comme on dit dans le foot, que Renaud. Et donc, on a commencé à faire un album. Renaud l'a su. Et un jour, il a entendu la chanson « La fille aux deux papas ».
Qui ouvre le disque.
Qui ouvre le disque et qui l'a intéressé, évidemment, parce qu'il est toujours très engagé sur un plan sociétal, quoi, comme on peut éculer déjà. Et il a voulu écouter les autres. Il a entendu une chanson qui est toujours sa chanson préférée, si j'ai bien compris, qui c'est « Quittons-nous, bons amants ».
Qui est la deuxième du disque.
Qui est la deuxième, qu'il aime beaucoup, et moi aussi. Et donc... Alors, il a dit ces mots, j'ai produit.
Je produis.
C'est dingue, c'est quand même dingue. Il y a très peu d'exemples de chanteurs aussi différents de nôtres qui a dit, j'y mets des sous dedans. Donc, merci Renaud.
Et alors, c'est comme ça que, à la suite de cet engagement de Renaud, que vous avez décidé, avec Patrick Loiseau et d'autres, de compléter le programme du disque, d'une
certaine façon. Absolument. Oui, parce que là, on avait une vraie motivation, quand même. Et en plus, il nous a permis de faire un disque dans un confort incroyable, dans une des meilleures studios d'Europe à Bruxelles. Avec 40 cordes, enfin, un disque que je ne pouvais pas rêver de faire.
Un vrai travail de studio comme on n'en fait plus.
Ouais, exact, à l'ancienne.
Voilà, avec d'ailleurs quelqu'un qui est un petit peu, on peut dire, le maître d'œuvre de ce point de vue-là du disque, qui s'appelle Thierry
Geoffroy. Et qui, lui, habite à Velleron, qui est à 7 km de l'île sur la Sorgue. Donc, c'est un disque,
c'est vraiment la bande de l'île sur la Sorgue.
Et on a même fait des remixes à Carpentras, vous voyez.
Alors, vous avez donc choisi de mettre en tête avec Renaud La fille aux deux papas, donc qui montre aussi votre engagement. Comme vous le disiez,
c'est une chanson que Marc-Olivier Fogel, pour lequel il a demandé à Patrick Loiseau de faire une chanson sur ses filles, et comme c'est une de mes bons amies, on l'a fait. Et puis, ça est venu une chanson que j'aime bien, qui est dans la musique de Claude Morgan et qui est une belle chanson.
Voilà, mais il y a aussi d'autres belles chansons. On a écouté tout à l'heure donc la chanson de Montagnier. Il y a Deux moitiés d'une même orange qui est touchante parce que.
Un clin d'œil à Jean-Louis Borry, quand même.
Oui,
et
absolument.
À Platon.
Oui. Et elle est chantée.
Avec Patrick Loiseau.
Pour la première fois, vous chantez en duo avec.
Oui, première et dernière fois. Je pense, mais il ne viendrait pas chanter avec moi à Bobino parce qu'il est beaucoup trop timide, pour ne pas dire réservé.
Et puis, alors, moi j'avais envie d'écouter Une femme qui s'en va, justement.
Ah, les chansons de Renaud.
Parce que ça, c'est une chanson que Renaud a écrite pour vous.
Non, il l'a écrite et il m'a demandé de le chanter. Ouais. Et c'est une chanson très autobiographique, évidemment, dans laquelle il parle de sa mélancolie. C'est des mots très forts, très durs. Et si on écoute bien ces paroles, et je suis sûr que les auditeurs de France Musique savent faire ça, ils se comprendront peut-être un peu Renaud.
Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais, ça se retourne à peine. Et puis ça disparaît. L'amour devient alors comme un couteau planté. Plus rien ne peut guérir un cœur assassiné. Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Peu importe qu'on pleure sur les années passées. Les larmes ne sont plus qu'un torrent d'eau salée, une source inutile où l'on va se noyer.
Ça souffre doucement, toute une éternité. Puis un jour ça entend. Chanter la liberté, ça court au devant d'elle, tout comme un évadé, comme un évadé.
Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais, et la mélancolie vient alors s'installer. Comme une pierre tombale sur une vie brisée, comme un jardin de ronces sur un cœur barbelé.
Ça souffre doucement, toute une éternité. Puis un jour ça entend. liberté. Ça court au-devant d'elle, tout comme un évadé, comme un évadé.
Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Jusqu'à la fin du monde, pourtant je t'attendrai.
Une femme qui s'en va, une chanson de Renaud, extraite donc du nouvel album de Dave, Souviens-toi d'aimer. Album où quand même la douleur, la mort, la maladie ont une certaine part, même s'il y a aussi des chansons plus joyeuses et
c'est
plus souriantes.
C'est de mon âge.
Ah, c'est de votre âge.
Bah, attends, aujourd'hui, me propose une chanson comme Alina, je vais rire au nez des gens qui me proposent, mais c'est vrai. Que je le chanterai jusqu'à ma mort. Mais il y a des chansons. Disons qu'on va dire que c'est l'album de la maturité ou de la blétitude.
Mais c'est vrai que non, mais la mort, vous en parlez beaucoup dans votre livre aussi.
Mais la mort fait partie de ma vie depuis le sida. Donc c'est depuis les années 80, et j'avais que 50 ans, donc c'est un peu tôt, encore que c'est mieux quand même que pour les gens qui ont fait la guerre et qui avaient affaire à la mort à 20 ans, mais c'est vrai qu'on rit toujours, mais pas comme avant, comme dit la chanson de Berger, de France Gall.
Vous aviez commencé d'ailleurs votre livre par une évocation du jour où votre cœur s'est arrêté, pendant combien de temps?
Pour opérer, pour un pontage, et je salue tous les pontés, nous sommes très solidaires entre nous. Il m'est arrivé de croiser une femme qui me dit « je suis ponté », elle m'a ouvert sa chemise pour monter sa cicatrice.
C'est, ah, fièrement,
c'est
oui.
Fascinant.
On est à la radio, ça sert à rien. Mais...
Et c'est vrai qu'on vous arrête votre cœur pendant les 15 minutes qu'il faut pour réparer tout ça. Oui. C'est une lourde opération, mais il n'y a pas de séquelles. C'est ça qui est formidable. Vous êtes comme neuf. Mon professeur qui m'a opéré m'a dit « je vous garantis 25 ans, vous serez mort avant d'autre chose ». J'avais de l'humour.
Alors Dave, vous serez le 18 novembre dans la foulée de la sortie de ce disque.
Si je suis pas mort d'ici là.
Vous serez sur la... Oh bah décidément. Vous serez sur la scène de Bobino avec donc ce défi, parce qu'on va pas dire challenge quand même, on était à Radio France.
Il y a des Français, exactement. Hein,
avec ce défi, vous nous l'avez expliqué, de comment coudre Vanina avec la chanson qu'on vient d'entendre. Et comment...
J'espère y arriver, mais je suis sûr d'y arriver.
Voilà, mais en tout cas, vous avez toujours la même voix pour Vanina, ça vous me le disiez tout à l'heure, vous avez toujours les mêmes aigus, etc.
Oui, ça c'est un cadeau du ciel, je suis pour rien. On perd ses cheveux comme on perd sa voix et on n'est pas responsable de ça. Donc moi, j'ai la chance d'avoir les deux pour le moment. Et même si mes cheveux sont un peu plus fins à cause des médicaments que je suis obligé de prendre. Mais c'est vrai que la voix est là et c'est extraordinaire. Maintenant, je ne peux pas commencer avec Vanina. Il faut que ce soit un peu chauffé.
Un peu chauffé. Mais enfin, le 18 novembre, à Paris, à Bobino, vous attendez ça avec impatience, appréhension.
Les deux.
Et peut-être après, en tournée. Et puis, d'ici là, vous ferez aussi même une tournée sur un bateau. Vous partez en croisière, en Méditerranée.
Ah, alimentaire, mon cher Watson.
Ah, c'est comme vous nous disiez tout à l'heure. Ça vous arrive d'accepter quand même.
Non, j'adore faire des croisières. Mais là, je pars, je chante et je reviens. Je ne fais pas les croisières en entier.
Tiens, on parlait à l'instant de défis et de challenges. Et puis, vous nous parliez aussi au début de l'émission de l'époque où tous les petits Hollandais apprenaient le français. Vous avez, avec Marc-Olivier Fogiel, commenté plusieurs fois le concours Eurovision. Ça ne vous effraie pas un peu cette façon que toute l'Europe a de chanter uniquement en anglais maintenant?
Ah, mais c'est mon souhait. Ah oui,
ah, vous êtes d'accord?
Ah, ben moi, je regardais l'Eurovision quand j'étais petit.
Oui, mes parents chaque pays chantait sa langue.
Mes parents ne voulaient pas télé parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Les télé étaient pour les ouvriers, mais pas pour les intellectuels. Donc, j'allais au café, le mardi soir, j'avais le droit d'aller voir le film. Mais c'est vrai qu'en chantant dans... La Hollande a gagné en hollandais. Aujourd'hui, c'est impossible, quoi. C'est géopolitique maintenant, les voix. C'est dommage. Mais je regarde toujours avec un certain plaisir l'Eurovision.
Un certain amusement, puis un œil un petit peu caustique.
Caustique, c'est plus. Cynique, j'aime pas ce mot parce que c'est pas gentil pour les chiens. Étymologiquement parlant, je veux dire.
En tout cas, voilà, vous continuez d'être le Hollandais qui défend le mieux la chanson française, certes. Vous êtes Hollandais ou Français d'ailleurs?
Ah non, je suis complètement Hollandais.
Toujours.
Oui, parce que quand je suis arrivé, on ne pouvait pas avoir la double nationalité. Ouais. Si j'avais choisi d'être naturalisé français, j'aurais perdu ma nationalité d'origine. Et j'ai pas su après que grâce aux travailleurs immigrés, on pouvait avoir la double nationalité. Ouais. Maintenant, c'est plus vraiment la peine parce que je suis européen, j'ai une carte de séjour française, donc je suis vraiment français. français, mais c'est vrai que mes premiers 20 ans aux Pays-Bas, c'est quand même marquant sur un plan
bien
culturel.
Bien sûr, c'est là qu'on apprend tout. Oui.
Voilà, donc,
on devient ce qu'on est.
C'est pas grave. Il y a un autre chanteur hollandais que j'aime bien citer parce que j'aime beaucoup, c'est Dick Angan. Sinon...
C'est vrai, il est venu ici même l'année dernière.
J'adore Dick Angan. On a plein de choses en commun.
C'est vrai, vous vous connaissez?
Oui, oui.
Vous avez tous les deux adoré les péniches, justement.
Ah, moi, c'est un bateau de pêche, lui, c'est les péniches.
Voilà, c'est
même
ça.
Même en Auvergne.
Merci Dave d'avoir été avec nous. Vous avez choisi pour finir une autre des chansons que vous aimez bien, bien qu'elle date des années 70, marquée par ces affreux succès que vous avez obtenus, mais moins connue, c'est Est-ce par hasard.
Ah oui, parce que j'adore le jazz chanté, j'aime dire jazz tout court, mais le jazz chanté, ça me fait craquer, de Oliver Gelt en passant par tous ces chanteurs, que c'est quasiment impossible en français de chanter
du jazz. Standard,
mais c'est un standard, Nat King Cole, Let's Fall in Love, il y a des gens qui pensent que c'est moi qui l'a créé, qui m'a adapté, non, c'est Nat King Cole.
Voilà, ben merci d'avoir été avec nous.
C'était
ce matin, Dave, et j'espère à bientôt.
Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard?
Est-ce par hasard si là le cœur qui s'égare?
Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre? Surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard?
Est-ce par hasard? C'était Dave en 1977, Dave que j'avais la grande joie de recevoir ce matin à l'occasion de la sortie de son nouveau disque intitulé « Souviens-toi d'aimer ». Voilà, il est sorti depuis hier, donc vous pouvez facilement le trouver. Et puis également, vous pouvez aller voir Dave, donc c'est le 18 novembre prochain à Bobino, à Paris, avec ses nouvelles chansons et les anciennes chansons qui ne sont très différentes, mais il nous a promis que ça allait très bien marcher ensemble avec sa nouvelle bande musicale qui sera également autour de lui à l'occasion donc de ce disque produit par Renault.
And now once again my friends, the inevitable is upon us. It is time for us to end our little show, for all the pieces that have flown apart to come together. Monsieur Dan, La Cage aux Folles proudly presents our finale, Maestro, if you please. With you on my arm, walking a new sensation with you on my arm. Each time I face a morning that's boring and bland, with you it looks good, with you it looks great, with you it looks grand. Somehow you put a permanent star in my eye. Even the dead of winter can feel like July. I found a combination that works like a charm. It's suddenly ooh, it's suddenly love.
It's you.
Vous avez reconnu donc La Cage aux Folles version Broadway sur la musique de Jerry Herman. Vous savez que Broadway avait adapté avec énormément de succès cette pièce de Jean Poiret et surtout pour nous tous le film que nous avons adoré. Alors La Cage aux Folles revient en France à Nice à l'occasion du festival d'opérette de la ville de Nice. Je voulais en dire un mot parce que c'est assez rare que des villes françaises aujourd'hui consacrent au moins une partie de leur programmation à l'opérette. Et là c'est avec l'Opéra de Nice, la ville de Nice, eh bien, qui nous propose chaque année en général deux spectacles, une comédie musicale et une opérette plus française avec le concours des forces vives et notamment de l'Orchestre Philharmonique de Nice. C'est important de le dire parce que trop souvent aujourd'hui on monte l'opérette sans véritablement les moyens d'un grand spectacle. Et bien ce sera le cas avec donc cette Cage aux Folles qui revient en version française adaptée par Fabrice Todaro d'après donc le musical américain. Ce sera le 21 et le 22 septembre prochain à l'Opéra de Nice dans le cadre de ce festival dirigé par Melka Coder, un festival voilà, auquel je souhaitais donner un coup de chapeau et qui vous proposera également début novembre son deuxième spectacle, La vie parisienne de Jacques Offenbach, qui sera également dirigé par Bruno Mambré, excellent chef qui connaît fort bien le répertoire d'opérette. L'occasion pour nous de retrouver ben voilà, un petit extrait de cette vie parisienne avec Pierre Bertin, Suzy Delair, le rondeau de Metella et toute la magie de la production Jean-Louis Barrault.
Ah, maître d'hôtel.
Monsieur.
Approchez, il me faudrait un cabinet.
Un cabinet?
Oui, un cabinet pour moi tout seul.
Pour vous tout seul? Avec une glace alors, ça sera plus gai.
Hein? Non, sans glace, parce que j'attends une personne.
Ah, et qui est cette personne?
Mademoiselle Metella.
Mademoiselle Metella?
Oui.
Mais la v'là, monsieur, justement, la v'là.
Ah.
Elle est là. Oui.
Oh, madame.
Laissez-moi un instant.
Mais qu'est-ce que vous avez?
Quelque chose que je cherche et que je ne peux pas. Oh, je viens de rencontrer un jeune homme.
Un jeune homme?
Oui, c'est très singulier, je me souviens l'avoir aimé à la folie et je ne peux pas me rappeler son nom.
Oh!
Oh, vous en entendrez bien d'autres.
Vraiment?
Mais nous sommes dans le restaurant à la mode, mon cher. Et minuit vient de sonner, alors.
C'est ici. L'endroit effroyable où les fils mineurs font sauter l'argent gagné par leur père et rognent la dot promise à leur sein. Minuit sonne, écoutez, croyez et profitez. Sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent pimpantes pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes, et bien entendu, des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tous les mondes, c'est un peu mêlé tout ce qu'on trouve ici. Oui, tout cela s'anime et se met en joie, froufrou de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de la bacchanale, et dont la voix brutale gronde tous les soirs. Rires éclatants, fracas du champagne, on caritone ici, on danse le bout. Et le piano qui grince accompagne sur des airs connus d'étranges ébats. Le bruit monte, monte et devient tempête. La jeunesse en fête chante à plein gosier. Ceux du plaisir ou de la furie font parler, courir, t'en pomper, briller. Quand on n'en peut plus, il faut bien se taire. La gaieté s'en va, petit à petit. Madame est tout debout, l'autre dame terre, et voilà comment la fête finit. Quand vient le matin, quand paraît l'aurore, on en trouve encore, mais plus de gaieté. Les joyeux viveurs sont mal à leur aise, et dans le grand voudrait du thé. Ils s'en vont enfin, la mine blafarde, ivre de champagne et de faux amours. Et le balayeur s'arrête et regarde, et leur cri, ohé, les heureux du jour.
Suzy Delair dans le rôle de Métella de la vie parisienne, une œuvre que vous pourrez donc applaudir à l'Opéra de Nice les 2 et 3 novembre, et puis les 21 et 22 septembre également à l'Opéra de Nice, La Cage aux Folles, toujours dans le cadre du Festival d'Opérette de la ville de Nice.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et comme promis, on va se quitter avec un autre extrait de ce coffret qui vient de paraître chez Frémaux et associer les chansons du cinéma français 1930-1962. Ça commence par « Avoir un bon copain » de Henri Gara et ça finit donc en 1962 avec « Sidonie » par Brigitte Bardot.
Sidonie a plus d'un amant. C'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Sidonie a plus d'un amant, parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue, Sidonie a plus d'un amant. Elle en prend à ses cheveux blonds comme à sa toile l'araignée. Prend les mouches et les frelons, elle en prend à ses cheveux blonds. Vers sa prunelle ensoleillée, il vole, pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée. Elle en prend à ses cheveux blonds. Elle les mène par le nez, comme fait, dit-on, le crotal des oiseaux qui l'a fasciné. Elle les mène par le nez, quand dans une moelle étale sa langue à leurs yeux étonnés. Comme fait, dit-on, le crotal, elle les mène par le nez. Elle en attrape avec les dents, quand le rire entr'ouvre sa bouche et dévore les imprudents.
elle en attrape avec les dents. Sa bouche, quand elle se couche, reste rose et ses dents dedans. Quand le rire entr'ouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Si Denis a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'en loue, elle s'en moque également. Si Denis a plus d'un amant, aussi jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement, qu'on le lui reproche ou l'en loue, si Denis aura plus d'un amant.
Brigitte Bardot dans Sidonie, cet extrait du film Vie privée, et c'est à retrouver dans le coffret Les chansons du cinéma français chez Frémaux et Associés. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterstre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Xavier Attaud, Valentin Bobineau, et c'est Christine Amado qui signe la réalisation. On se retrouve, nous, bien sûr, la semaine prochaine, et j'accueillerai l'écrivain François Armanet et l'artiste Gérard Mancé pour évoquer les années 70, le Docteur Saint-Germain et tout un temps de la chanson française. Bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.